Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, permettez qu'avant de vous adresser quelques mots d'édification en cette journée qui est encore sous l'auréole de l'Immaculée Conception et de Saint Pie, que je fasse allusion aux quelques lignes qui ont été publiées ces jours derniers par l'évêque du lieu, Mgr Schwery. On vous a demandé de ne pas venir à cette sainte messe. On vous a dit qu'en venant ici, vous désobéissiez à l'évêque du lieu et que vous désobéissiez au souverain pontife. Ce sont là des propos très graves et tout à fait dénués de fondement. S'il est vrai qu'il y a une dizaine d'années déjà, nous subissons une persécution. Mais cette persécution n'a aucun fondement. Elle est inspirée par un esprit qui n'est pas catholique, un esprit novateur, un esprit qui ressemble davantage à l'esprit de Luther qu'à l'esprit de la foi catholique. C'est parce que nous conservons fidèlement, intégralement la tradition de l'Église que nous sommes persécutés. Alors je vous demande à vous-même, avez-vous le droit d'être persécuté de cette manière? Avons-nous le droit d'être poursuivis par cette inimitié? Pour preuve de l'erreur de ceux qui continuent à nous persécuter, je n'ai qu'un exemple à vous donner, le voici. Regardez, vous avez vu tout à l'heure défiler ces séminaristes, ces prêtres. Si cela n'est pas l'Église, alors il n'y a jamais eu d'Église catholique. Si notre sainte messe n'est pas d'Église, alors il n'y a jamais eu d'Église catholique. Que faisons-nous d'autre que de prier comme on nous a demandé de prier tout au cours de notre vie? Je ne fais que célébrer la messe qui a été celle de mon ordination. Et vous-même ne faites que d'assister à la messe qui a été celle à laquelle vous avez assisté tout au long de votre vie, à laquelle ont assisté et participé vos parents, vos grands-parents, vos ancêtres, et qui se sont sanctifiés, qui sont aujourd'hui au ciel. Et tous les saints se sont sanctifiés par cette sainte messe, par ces sacrements, par la prédication telle que nous la prêchons. Alors, nous sommes obligés de conclure que ceux qui nous persécutent de cette manière n'ont plus l'esprit catholique. Ce sont eux qui ont abandonné l'esprit catholique. Parce qu'ils persécutent non pas nous-mêmes, mais tout ce que nous représentons. Or, nous représentons une tradition sainte de l'Église de 20 siècles de chrétienté, de 20 siècles de sanctification des âmes. Ceux qui critiquent 20 siècles d'Église n'ont plus l'esprit catholique. Je tenais à le dire parce que les propos qui ont été tenus par l'évêque du lieu sont tellement injurieux, tellement injustes, que je ne puis pas me taire devant une pareille injustice qui n'atteint pas seulement ma propre personne, ce serait peu de chose, mais qui atteint à la fois tous nos prêtres, tous nos séminaristes et vous-même. Alors nous protestons et nous disons qu'on nous juge et qu'on juge si nous ne sommes pas fidèles à la foi catholique de toujours, qu'on juge si nous ne sommes pas semblables à ceux qui nous ont précédés, et en particulier à Saint Pie X, par exemple, dernier saint pape que nous fêtons aujourd'hui. Si Saint Pie X vivait encore aujourd'hui, il nous approuverait parfaitement. Il nous bénirait, il nous encouragerait, il nous montrerait un exemple. Mais depuis que des novateurs, plus semblables aux protestants qu'à des catholiques, ont envahi l'Église, alors évidemment, ils condamnent ceux qui gardent la tradition. Mais soyons fidèles, mes bien chers frères, n'ayons nulle crainte, prions pour ceux qui nous persécutent. Demandons à Dieu de leur ouvrir les yeux, qu'ils ouvrent les yeux sur la réalité de la subversion qui règne aujourd'hui dans l'Église, afin qu'eux aussi retrouvent le chemin de la tradition et le chemin de la reconstruction de l'Église, tel que nous souhaitons le faire sous le regard de la Vierge Marie et de Saint Pie X. Hier, au cours des Vêpres, nous avons chanté à l'antienne de Magnificat Odie, sine ulla la peccatilabe concepta est Maria. Odie, contritum est abea caput serpentis antiqui. Aujourd'hui, sans aucune faute, sans aucune tache de péché, est née, a été conçue la Vierge Marie. Aujourd'hui, la tête du serpent, du démon, a été écrasée par Marie. Bien, chers frères, ce sont là des vérités que nous devons toujours avoir devant nos yeux, qui sont comme le fondement de notre foi. C'est l'expression de deux dogmes essentiel pour notre vie chrétienne. S'il est vrai que la très sainte Vierge Marie a été immaculée dans sa conception, qu'elle n'a pas eu la tache du péché originel, et que nous fêtons l'Immaculée Conception comme pour nous un grand espoir, une immense espérance, une lumière qui vient du ciel et qui va nous reconduire au ciel, nous qui étions dans les ténèbres. Alors c'est parce que tous, tant que nous sommes, nous portons en nous la tâche originelle avec toutes ses conséquences. Sans doute, grâce au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, grâce au mérite de la bienheureuse Vierge Marie, nous avons reçu le baptême, et par le baptême, la faute du péché originel a été effacée. Mais nous demeurons malades, nous demeurons avec toutes les influences du péché originel. Nous sommes des malades. Nous le disons avant de recevoir la Sainte Communion, vous allez le répéter trois fois tout à l'heure. Seigneur, je ne suis pas digne que vous entriez dans ma maison, mais dites seulement une parole et mon âme sera guérie. Et vous répéterez trois fois, et mon âme sera guérie. Pourquoi guérie? C'est donc qu'elle est malade. Oui, nous sommes des malades. Par les suites du péché originel, elle demeure, et nous sommes non seulement malades dans nos âmes, par toutes les mauvaises tendances qui nous pousse au péché, ce que saint Thomas appelle « fomes peccati ». Il y a cette tendance au péché qui est toujours en nous, malgré la grâce du baptême, malgré tous nos efforts, malgré le sacrement de pénitence et le sacrement de communion que nous recevons, nous demeurons toujours avec cette tendance au péché. Alors nous avons besoin du médecin de nos âmes. Les conséquences du péché sont là, du péché originel. Conséquences qui se manifestent aussi dans la maladie. Si nous n'avions pas eu le péché originel, si nous n'étions pas solidaires de nos premiers parents, par la chair que nous avons reçue de nos parents, bien nous ne serions pas malades, il n'y aurait pas de maladie. Notre Seigneur n'a pas été malade au cours de sa vie. La Très Sainte Vierge Marie n'a pas souffert de la maladie au cours de sa vie. Mais ils ont voulu mourir. Mourir à cause de la rédemption. Et la Vierge Marie a voulu aussi mourir pour imiter son divin Fils. Mais elle n'était pas soumise à la mort parce qu'elle n'avait pas le péché originel. C'est pourquoi elle est montée au ciel avec son corps. Elle est ressuscitée. Parce qu'elle n'avait pas les conséquences du péché originel. Oui, nous sommes des malades, et nous devons nous convaincre de cela, pour avoir ce désir immense de nos âmes, de nous guérir, de rentrer dans l'ordre, de faire la volonté du Seigneur, de faire la volonté de Dieu, l'ordre. Et alors, les remèdes, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, c'est sa croix, c'est son sang, c'est sa passion, c'est le saint sacrifice de la messe, c'est la sainte victime immolée sur la croix que nous recevons dans la sainte communion et qui guérit nos âmes. Dans la prière d'ailleurs qui précède la communion, nous le disons, admedelam percipiendam, pour que nous recevions un remède. Seigneur, venez en nous afin que nous recevions le remède dont nous avons besoin pour nos âmes. Voilà l'enseignement de l'Église. Alors, sachant cela, nous devons accepter la souffrance, la pénitence pour la réparation de nos péchés, pour la réparation de nos fautes, pour remettre nos âmes dans l'ordre voulu par Dieu. Et tout cela nous est rappelé par la fête de l'Immaculée Conception. Oh, comme elle est bienheureuse, la Vierge Marie, sans tache, sinémacula. Et puis, le deuxième dogme auquel fait allusion l'antienne du Magnificat, c'est que la Vierge Marie a écrasé la tête du serpent, a écrasé la tête de Satan. Et cette vérité est rappelée d'une manière sublime par saint Jean dans son Apocalypse. Dans le chapitre 12 de l'Apocalypse, saint Jean nous décrit les signes du ciel. Il y eut un signe, une femme, brillante comme le soleil, et qui avait sous ses pieds la lune et qui avait une couronne de 12 étoiles surgit dans le ciel. C'est la Vierge Marie, décrite dans l'Apocalypse. Et puis, immédiatement après, un autre signe apparaît dans le ciel à saint Jean, le dragon rouge, aussi horrible à voir par ses cornes, par ses têtes multiples. Et lui s'efforce alors de dévorer l'enfant qui doit naître de la femme. Il la poursuit pour essayer de dévorer cet enfant. Et puis, saint Jean passe à ce moment-là au combat qui a lieu dans le ciel entre saint Michel Archange et ses anges et ceux qui suivent saint Michel et le dragon et ceux qui suivent le dragon. Et il dit que le dragon entraîna avec lui dans sa queue il entraîna le tiers des étoiles du ciel, probablement le tiers des anges, suivi, hélas, la révolte du dragon, qui, dit Saint Jean, est appelé le diable ou Satan. Alors une guerre effroyable se passe au ciel, et Saint Michel triomphe avec ses disciples, avec les anges. Et il triomphe, dit Saint Jean, par le sang du Christ, par le sang de l'agneau. C'est le sang de l'agneau qui donne le triomphe à Saint Michel et à ses anges contre le dragon. Le dragon est précipité sur la terre. Alors s'élève un chant, « Bienheureux le ciel, bienheureux les élus du ciel qui désormais sont délivrés de Satan et de tous ses disciples. Mais malheur à la terre et à la mer qui reçoivent Satan. » Parce que Satan est dans une fureur énorme, parce qu'il a été précipité du haut du ciel sur la terre, et il sait, dit l'Apocalypse, qu'il lui reste peu de temps, modicum tempus, un tout petit peu de temps qu'il lui reste. Il va donc agir pour essayer encore de détruire l'enfant de la femme. Il va poursuivre Marie, et de sa bouche sortira un fleuve immonde qui essaiera d'inonder la terre de telle manière que la femme et l'enfant disparaissent dans ce flot immonde. Mais la terre vient au secours de Marie, et un abîme s'ouvre, et ce fleuve immonde est absorbé par la terre. Alors Marie et Jésus sont sauvés. Mais alors la fureur de Satan se tournera contre les fils de la Vierge et contre ceux qui accomplissent les commandements de Dieu et le commandement de Jésus. Voilà ce que dit l'Apocalypse. Eh bien, chers frères, nous assistons toujours. Ce spectacle, cette action continue. Oui, le démon est à l'œuvre, ici-bas, et Marie continue de lui écraser la tête. Et malheureusement, les puissances de l'enfer étant déchaînées ont une influence considérable ici-bas. Et si le démon n'entraînait que les ennemis de l'Église, mais hélas, il arrive à pénétrer à l'intérieur même du troupeau du Seigneur. Il arrive à pénétrer à l'intérieur de l'Église, comme le dit Saint Pie X. Et alors, des membres de l'Église, et bien souvent des membres du clergé, se laissent corrompre par les fausses idées que Satan répand dans le monde. Et c'est ce que nous voyons. Et ce à quoi nous assistons aujourd'hui, mes bien chers frères, les fausses idées du monde qui détruisent l'Église par l'intérieur, qui corrompent la catholicité, ces idées fausses se répandent à l'intérieur de l'Église. Une de ces idées fausses, idées modernes, c'est surtout l'œcuménisme, c'est la liberté religieuse. Ce sont les droits de l'homme. Droits de l'homme qui vont à l'encontre des droits de Dieu. C'est la révolte de l'homme contre Dieu. Liberté de penser, liberté de choisir sa religion, liberté de parole, liberté de la conscience. Autant de libertés qui ont été condamnées maintes et maintes fois par tous les papes, par Pie IX, par Léon XIII, par Pie X, par Pie XI, par Pie XII, qui ont mis en garde tous les fidèles, tous les évêques, prenez garde. Léon XIII appelle ça le droit nouveau, un droit nouveau qui a surgi, contraire au droit de l'Église, un droit de la laïcité, ce droit de l'athéisme, ce droit de l'oubli de Dieu, de la persécution de Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout cela est condamné par les papes. Eh bien, nous le voyons ressurgir ces idées-là à l'occasion du Concile Vatican II. Et des faits sont là devant nos yeux. Ces dialogues avec l'erreur, on voudrait donner la même place à l'erreur qu'à la vérité, les mêmes honneurs à l'erreur et à la vérité, les mêmes honneurs à la vertu, donner au vice qu'à la vertu. Nous le voyons dans toutes les lois des pays, particulièrement des pays athées et socialistes, mettent sur le même pied le vice et la vertu. Nous pourrions dire qu'ils ne font que l'éloge du vice et légalisent le vice. Les avortements, les divorces, et que sais-je, nous pouvons citer de nombreuses lois contraires à la loi du bon Dieu. Cette révolte du monde contre Dieu est une chose horrible et soutenue par Satan, soutenue par le dragon et par tous ses disciples. Alors, au lieu de faire comme la Vierge Marie, d'écraser la tête de Satan, de ne pas dialoguer avec lui, qu'est-ce qui a perdu Ève ? C'est le dialogue avec Satan. Elle a dialogué avec Satan, Satan l'a perdu. Quand on dialogue avec Satan, quand on dialogue avec le mal, quand on dialogue avec l'erreur, on est perdu. Et c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. On doit lutter contre l'erreur. On doit proclamer la vérité. On doit lutter contre le vice et pratiquer la vertu. On doit écraser la tête de Satan à l'image de la très sainte Vierge Marie. Mais aujourd'hui, le monde est au dialogue. Je pourrais vous citer un exemple. Je reviens d'Amérique du Sud. Eh bien, le président de la Colombie, qui est soi-disant un président catholique, qui a été élu par les conservateurs, par conséquent par ce qu'on pourrait appeler la droite, bien, ce président conservateur, depuis 2 ans qu'il est président de son pays, a instauré lui aussi le dialogue avec les ennemis de son pays, avec ce qu'ils appellent là-bas la guérilla, les guérilleros. Eh bien, résultat de ce dialogue depuis 2 ans, de 10 à 15 000 hommes armés dans la guérilla qui se trouvait il y a 2 ans, il y en a maintenant 70 000. La guérilla possède 70 000 hommes armés qui sont unis à Moscou, à la Chine et à Cuba. Voilà un pays qui, du jour au lendemain, peut passer à la domination du communisme à cause du dialogue d'un homme de droite. Voilà où en est le résultat de ce dialogue. Il a permis aux jeunes guérilleros d'aller dans les universités. Il leur a payé des bourses pour aller dans les universités. Résultat, les universités sont communistes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du danger que court le monde actuellement, de l'implantation communiste. La Colombie est un nœud par lequel les communistes pourraient commander sur le Pacifique, sur le Golfe du Mexique, sur la mer des Antilles et sur toute l'Amérique du Sud. Ils savent très bien que s'ils emportent ce bastion, ils ont toute l'Amérique du Sud à leur solde. De même qu'ils ont fait avec l'Éthiopie en Afrique. C'est la même situation. Voilà où nous en sommes avec ce dialogue. Nous ne pouvons pas dialoguer avec les communistes. Il faut les combattre. C'est ce que disait le papillon. Le communisme est intrinsèquement pervers. On ne discute pas avec quelque chose qui est intrinsèquement pervers. Et la Très Sainte Vierge nous montre l'exemple. Et Saint Pie X nous montre l'exemple. Pour Saint Pie X, c'était la lutte contre les erreurs, lutte contre le modernisme, lutte contre le sillon, lutte contre toutes ces erreurs qui pourrissent l'Église. Alors nous avons là 2 exemples, mes bien chers frères, la Très Sainte Vierge Marie et Saint Pie X. Et je pense que tous deux avaient le même désir. La très sainte Vierge Marie pouvait-elle avoir un autre désir que de désirer le règne de son divin Fils, instaurare omnia in Christo. Et c'est le même désir qu'avait saint Pie X, tout remettre dans les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, mes bien chers frères, quel doit être notre désir. Tout à l'heure, vous le chantiez, lorsque nous entrions dans cette magnifique assemblée de cette salle où vous êtes venus si nombreux, si courageux, et vous avez tant prié au cours de cette sainte nuit. Vous chantiez, oui, que le règne de notre Seigneur arrive, qu'il règne sur nous, pendant que le monde proclame, c'est pas toutes ses erreurs, eh bien, nous prions pour que règne notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, que ce soit là notre idéal, que nous continuions le combat, que nous soyons fermes pour l'instauration du règne de notre Seigneur Jésus-Christ en nous-mêmes, d'abord, dans nos familles, dans nos villages, dans notre cité. Soyons courageux, entreprenons une croisade. Il y a, on peut dire aussi, autant nous voyons la situation du monde vraiment sous un jour qui peut être provoqué un peu de pessimisme, si nous le voyons humainement parlant, en même temps, nous voyons surgir partout de magnifiques résistances. Les âmes comprennent le danger, se regroupent, se réunissent pour prier, et pour prier particulièrement la Vierge Marie. C'est cela qui nous sauvera. Alors qu'aujourd'hui nous prenions la résolution avec saint Pie X d'aller à la Vierge Marie et de lui demander en grâce de venir aussi chez nous écraser la tête du serpent afin que règne son divin Fils, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Nous célébrons aujourd'hui le deuxième dimanche de l'Avent. Nous sommes dans ce temps de pénitence, et la couleur violette est là pour nous le rappeler, dans ce temps de pénitence qui nous permet d'attendre la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous permet de nous préparer dignement à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment entrer dans cet esprit de pénitence? Comment entrer dans l'esprit que la Sainte Église veut nous voir adopter en ces jours qui précèdent la Noël? Comment sinon en contemplant le précurseur, celui-là même qui a annoncé la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, qui non seulement l'a annoncé, mais l'a vécu, qu'il l'a vécu dans sa chair. Entrer dans l'esprit de l'Avent, c'est donc premièrement voir saint Jean-Baptiste. C'est ensuite l'entendre. C'est enfin, pour ceux qui ne savent pas voir, pour ceux qui ne savent pas entendre, apprendre de Jésus-Christ lui-même qui était Jean-Baptiste. Trois points donc doivent retenir notre attention si nous voulons méditer avec fruit en ce deuxième dimanche de l'Avent. Tout d'abord, sachons voir la personne de Jean-Baptiste, voir cette vie d'austérité, cette vie de jeûne, cette vie de pénitence, cet esprit de mortification, de renoncement, qui se manifeste non par de belles paroles, mais par des actes concrets, quotidiens. Son vêtement, des poils de chameau. Sa nourriture, des sauterelles, du miel sauvage. Et son logement, le désert. Voilà. Voilà quelle fut la vie de celui qui annonçait le Sauveur du monde. Sachons voir. Sachons aussi l'entendre. Que nous dit-il? Que disait-il à ses contemporains? Que nous dit-il à nous qui attendons Jésus-Christ? Convertissez-vous, Faites pénitence. Détournez-vous de ces voies que vous avez empruntées et qui ne sont pas les voies de Dieu, qui ne sont pas les voies qui mènent au salut, mais plutôt des voies qui mènent à la perdition. Les hommes se sont détournés du droit chemin. À la façon de l'enfant prodigue, ils ont quitté la demeure paternelle. À la façon de l'enfant prodigue, ils sont allés auprès de ces créatures. Ils sont allés dissiper l'héritage. Ils sont allés gaspiller les trésors. Et ils sont revenus avec un goût de cendre dans la bouche parce qu'ils avaient péché. Ils sont revenus à la maison du Père. Saint Jean-Baptiste nous dit aussi, à la façon de cet homme qui fut recueilli, qui fut soigné par le bon Samaritain, cet homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho, cet homme qui quittait la ville sainte pour aller vers les ténèbres, vers la gentilité, vers le paganisme peut-être. Saint Jean-Baptiste nous dit, à nous qui aurions aussi peut-être tendance à dilapider les trésors, à abuser de la grâce, des nombreuses grâces qui nous sont faites, à nous qui aurions tendance peut-être à nous détourner de l'Église, des exigences morales qu'elle nous impose, ou plus exactement, que maternellement elle nous propose, à nous qui aurions tendance à quitter Jérusalem pour nous tourner vers Jéricho. Saint Jean-Baptiste est là qui nous dit, convertissez-vous, retournez-vous, retournez à la maison du Père. Ne descendez pas, remontez, remontez ces pentes que nous dévalons avec tant de facilité. Voir Jean-Baptiste, entendre Jean-Baptiste, mais nous le savons. Nous avons des yeux et nous ne voyons pas, nous avons des oreilles et nous n'entendons pas. Alors apprenons. Apprenons de Jésus-Christ lui-même, qui est Jean-Baptiste. Et tout d'abord, apprenons de Jésus-Christ, qui n'est pas Jean-Baptiste, ce qu'il n'est pas. Dans les trois questions qui sont posées au cours de cet évangile, il y a tout d'abord deux définitions négatives. Jean-Baptiste n'est pas un homme vêtu d'habits somptueux, d'habits moelleux. Jean-Baptiste n'est pas un roseau agité par le vent. Ce qu'il est, un prophète, plus encore, plus qu'un prophète. Non, Jean-Baptiste n'est pas un homme vêtu d'habits somptueux, de vêtements moelleux. Ce n'est pas un homme qui vit dans le luxe, dans le confort, un homme qui gomme soigneusement toutes les exigences que la mortification, que la pénitence nous impose. Un de ces hommes incapables du moindre effort, capables simplement, non pas de vivre, mais de se laisser vivre, ce qui est totalement différent de ces hommes qui n'ont de morale qu'une morale permissive. Toujours jouir, jamais souffrir, jamais mourir. Voilà la morale permissive. Et les affiches de nos villes et les slogans sont là, qui crient cette morale permissive. Jean-Baptiste n'est pas non plus un roseau agité par le vent, de ces hommes sans conviction, sans idée fixe, ferme, arrêté, de ces hommes qui pensent qu'il faut suivre les modes, qu'il faut s'adapter, qu'il faut adopter les courants dominants, de ces hommes, de ces pauvres créatures, devrait-on dire, qui s'efforcent d'être à la page et réussissent à n'en avoir que l'épaisseur, soumis à la mode en permanence, la tyrannie de la mode. Ou alors, de ces hommes agités par les soubresauts d'une sensibilité exacerbée une imagination suractivée, de ces hommes qui ne peuvent supporter la moindre contrariété, la moindre contradiction, sans être dans tous leurs états. Quels états ? Non, Jean-Baptiste n'est pas de ces roseaux agités par le vent. Le roseau est une plante creuse. Alors, ce qu'est Jean-Baptiste, notre Seigneur nous le dit. C'est plus qu'un prophète. Que faut-il entendre par cette expression ? Loin d'être de ces hommes voluptueux, de ces hommes inconstants, Jean-Baptiste était de la race de ces hommes, animé, habité, dévoré par un feu intérieur, de la race des grands fondateurs, des athlètes de la foi, des géants de la vie spirituelle, non de ces êtres médiocres. Il annonçait plus exactement, tous ces saints qui font la gloire de l'Église, les saints Benoît, les saints Dominique, les saints Ignace de Loyola, les saints Pédis. Animés, habités, dévorés, et non pas agités simplement par les vents de la mode. Animés par un feu intérieur, habités par des convictions profondes, dévorés par un zèle pour le Sauveur et pour les âmes qui seraient sauvées par Jésus-Christ. Voilà qui était Jean-Baptiste. Que devons-nous donc retenir de cet exemple ? Que devons-nous faire si nous voulons véritablement non seulement entrer dans l'esprit de l'Avent, mais vivre conformément à ce que l'Église veut en ce temps de pénitence ? Eh bien, nous devons combattre, combattre contre le péché, c'est-à-dire combattre contre nous-mêmes, par la prière, par la pénitence, par la mortification, par le renoncement. Il faudrait, à l'instar de saint Jean-Baptiste, nous sachions nous renoncer à nous-mêmes, c'est-à-dire vivre dans l'abnégation, le désintéressement. Saint Jean-Baptiste, vous le savez, ne souhaitait qu'une seule chose, diminuer, disparaître, s'effacer devant Jésus-Christ, pour que Jésus-Christ croisse, grandisse. Nous aussi, nous devons souhaiter de mourir à nous-mêmes, de faire mourir le vieil homme en nous pour que Jésus-Christ croisse, grandisse en nous. Que notre Seigneur vive en nous, que ce ne soit plus nous qui vivions, que ce soit le Christ qui vive en nous. Notre Sainte Messe est là pour nous aider à réaliser ce programme exigeant, certes, mais enthousiasmant, captivant. Il faudrait que nous soyons dans notre vie quotidienne, comme dans une messe vécue, et que nous sachions nous consacrer à notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire faire en sorte que tout ce qu'il y a d'humain en nous se transforme en divin, que tout ce qu'il y a de terrestre en nous se transforme en céleste, que toutes nos infirmités disparaissent et que la divinité puisse apparaître. C'est cela la consécration, c'est cela la communion. Ce n'est pas nous qui consommons Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui nous consomme. Tout reconstruire dans le Christ, c'était le vœu de saint Bidis à la suite de saint Paul. Comment remplir ce programme ? Comment l'envisager sérieusement, sans se griser de mots, sans se flatter de belles paroles inefficaces ? Si l'on n'entreprend pas d'abord de reconstruire en soi, suivant l'exemple que nous donne saint Jean-Baptiste. Tout reconstruire dans le Christ, tout, c'est-à-dire Nous, d'abord nous, chacun d'entre nous. Et ensuite, avec l'aide de Dieu, avec l'aide de la grâce, avec ce zèle dont Saint Jean-Baptiste était habité, reconstruire dans nos familles, dans nos ateliers, dans nos bureaux, dans nos cités, dans nos nations. Tout reconstruire dans le Christ, c'est une formule séduisante, c'est une formule flamboyante, elle claque au vent comme un étendard, elle présuppose une réalité moins brillante, plus austère. Elle présuppose l'exemple de Saint Jean-Baptiste. Tout restaurer dans le Christ présuppose la mortification, l'abnégation, le désintéressement, le combat contre le péché, le combat contre nous-mêmes. Nous demanderons donc au cours de cette messe à Notre-Dame et à Saint Jean-Baptiste de nous aider à nous combattre nous-mêmes pour que, enfin, nous puissions véritablement, véritablement tout reconstruire dans le Christ, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.